Alléluia. Alors, je suis vraiment honoré d'être ici. Déjà, j'étais en feu. Je ne sais pas si la louange, ça vous impacte comme moi, ça m'impacte. Vous savez quoi? Quand j'écoutais la louange, j'étais frustré parce que il fallait que je garde ma voix pour apporter la parole. Alors, je ne pouvais pas chanter. D'habitude, quand je chante la louange, je vous assure, quand je finis la louange, je n'ai plus de voix. J'ai tellement envie de crier à Dieu que j'ai plus de voix. Donc, j'étais un peu frustré, mais qu'est-ce que c'est bon la présence de Dieu. Et je suis vraiment honoré d'être ici et d'entendre une église qui loue, qui crie, qui prie et qui aime le Seigneur. Amen. Alors, je voudrais, pour commencer, vous adresser les salutations de l'église M. Montargis. Particulièrement, donc dans cette œuvre où je vais citer les noms. Donc il y a moi-même et mon épouse Marie ici présente. Il y a nos deux garçons, Jarod et Manoa, qui doivent nous regarder. Je vous aime les enfants. Il y a la famille Kunz avec Freddy, Véronique et Lola. Amen. Qui nous suivent. Je veux aussi honorer la famille Ferno avec Jennifer, amen. Mélodie, amen. Et Nathan. Amen, amen. Et je vais également honorer notre sœur Audrey. Oui. Et je prophétise très bientôt son mari également, yes. Qui ne connaît pas encore le Seigneur, mais nous voulons l'inviter. Vraiment, toute cette œuvre est une bénédiction. Et vous savez quoi? Je vais vous expliquer comment ça s'est produit rapidement, simplement. Avec mon épouse, Dieu a mis une semence dans notre cœur. Un amour pour Montargis. Nous avons labouré nos cœurs et Dieu a déposé une semence. Mais vous savez, pasteur Romaric et pasteur Céline ici présents, je veux également les honorer. Parce que c'est eux qui ont arrosé cette semence. Ils l'ont arrosée par leur confiance. Ils l'ont arrosé par leur prière. Ils l'ont arrosé par leur conseil. Ils l'ont arrosé par leur présence. C'est pourquoi je dis, je veux vraiment les honorer ce matin, parce que nous ne serions pas là, le fruit de cette œuvre, ils l'ont arrosé pour qu'ils germent aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alors on peut les bénir, on peut les honorer, je les remercie. Amen. Bénissez-les fort. Alléluia. Amen. S'ils ont pu arroser ma semence là, ils vont arroser également la vôtre. Il y a des ministères qui vont peut-être se lever dans cette église. Alors soyez, bénissez-les, ils vont vous bénir. J'aimerais commencer sans plus attendre à entrer dans mon message. On m'a donné l'honneur de parler sur ce thème de la joie. Et mon message s'intitule, on peut mettre le titre, « Mets-toi en mouvement avec Jésus et sors de ta tristesse. » Sors de ta tristesse. J'ai mis le mot tristesse, j'aurais pu mettre le mot angoisse, j'aurais pu mettre le mot peur, j'aurais pu mettre le mot, je ne sais pas qu'est-ce qui aujourd'hui vous empêche d'entrer dans la joie. Mais je veux que vous compreniez que la joie est un lieu spirituel. Dans votre mentalité, il y a un lieu où la tristesse règne et il y a un lieu où la joie règne. Et lorsque vous êtes en mouvement avec Jésus, Jésus vous conduit d'un lieu de tristesse vers un lieu de joie. Alors comprenez que la joie n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Je vais citer quelques personnes. Est-ce qu'on peut afficher Pierre Bayle? Pierre Bayle, c'est un philosophe du XVIIIe siècle. Vous connaissez, évidemment. On a des érudits ici. Alléluia. Pierre Bayle va déclarer « La joie est le nerf de toutes les affaires humaines. » C'est-à-dire, en fait, quand on fait quelque chose, ce qui nous motive, c'est la quête d'une joie. C'est ce qu'il est en train de dire. Bon, on va prendre peut-être plus connu. Anne Frank. Qui connaît Anne Frank? Ceux qui ont plus de 20 ans qui ne connaissent pas Anne Frank, attention. pour les moins de 20 ans, je le dis, Anne Frank, c'est une déportée juive pendant l'époque de l'Allemagne nazie. Et c'est une des rares survivantes des camps de concentration. Anne Frank, quand elle va revenir, elle va dire une chose. Le courage et la joie sont deux facteurs vitaux. Donc, comme quelqu'un comme ça, qui a vécu un niveau de persécution, un niveau d'angoisse aussi élevé que la déportation, il vous dit que la joie est vitale, c'est lourd. L'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 16. Ah, amen. Je savais qu'il y en a qui diraient, oh, c'est pas la parole de Dieu, ça, non? Il va dire, soyez toujours joyeux. C'est un impératif, hein? Soyez, c'est un ordre. Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Soyez toujours joyeux. La joie n'est pas une option. Et un de mes préférés, le prophète Esdras, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Néhémie, au chapitre 8, au verset 10, il dira, ne vous affligez pas, parce que la joie de l'Éternel sera votre force. On l'a dit, on l'a chanté. Et j'aimerais vous dire que particulièrement, je suis impacté par cette phrase, parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu, c'est ma vie. Je vais donner ma définition de la joie. La joie, c'est une force, comme l'a dit Néhémie, Esdras, dans Néhémie, qui permet de traverser les situations, les circonstances, les émotions de ta vie. Donc, la joie n'est pas l'émotion. Elle vous donne la force de traverser. Et pour moi, et je veux que ce matin, ce que mon introduction elle va être axée là-dessus, je veux que ce soit également pour vous. C'est le carburant pour l'expansion dans tous les domaines de ma vie. On est dans une saison d'expansion. On l'a rappelé au début de l'année. Mais souvent, on n'arrive pas à grandir. Pourquoi je parle de l'expansion? Parce que c'est la joie qui va vous permettre de bénir vos relations. C'est la joie qui va vous permettre de grandir dans votre vision, dans votre milieu professionnel. C'est la joie qui va vous permettre d'être excellent. La culture de l'Église va dépendre de la joie que Dieu va mettre en vous. Alors, de quelle joie parle-t-on? Je parle d'une joie que Jésus veut vous donner. Jean 15, au verset 11. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète ou parfaite, selon les versions. Donc, la joie, là, vous comprenez que ce n'est pas lié juste à une circonstance de la vie. C'est un don de Dieu. C'est une grâce. Et l'avantage avec la grâce et le don de Dieu, c'est qu'il ne dépend pas des circonstances. Jésus vous le donne. Recevez. Jésus vous donne la joie. Et souvent, en tant que chrétien, là particulièrement des chrétiens, je parle, si vous ne connaissez pas Jésus, recevez la grâce du salut. Il vous aime. Mais en tant que chrétien, on dit oui, j'ai la grâce du salut, mais on accepte facilement l'idée de ne pas recevoir la grâce de la joie. Alors que la personne qui vous donne la grâce du salut est la même personne qui vous donne la grâce de la joie. Alors, comment on vit cette joie surnaturelle, ce don? Vous savez, pasteur Romaric m'a beaucoup appris. Et quand je l'écoute, j'apprends beaucoup de lui. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a appris? Il m'a appris que les chiffres se suivent et que avant 11, il y a 10.
Ah, félicitations.
Merci. Avant 11, il y a 10. Et dans Jean 15, 10, Jésus dira, gardez mes commandements et vous demeurerez dans mon amour. Comme je garde les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Et c'est pour ça qu'après il dira, je vous ai dit cela. En fait, c'est ce qu'il a précédemment dit. Gardez mes commandements. Et le terme garder, en grec, j'ai un peu appris, Ça se dit téréo. Et ça se traduit de plusieurs manières. On voit garder comme observer, préserver, conserver, pratiquer. Est-ce que vous comprenez que garder le commandement, ça veut dire que le commandement est une semence. Lorsqu'on le protège, ce commandement de Jésus, lorsqu'on le pratique, cette semence produit du fruit. Et ce fruit, c'est la joie. C'est pourquoi il est important de comprendre quel est le commandement, quelle est la semence qui va vous permettre de développer une joie en vous. Vous connaissez le dicton ? Si je vous donne un poisson aujourd'hui, je vais vous nourrir aujourd'hui. Mais si je vous apprends à pêcher, je vous nourrirai tous les jours. C'est pourquoi Dieu donne des semences que l'on doit cultiver pour que notre joie soit parfaite. Et je vais vous donner deux semences ce matin. Est-ce que vous avez soif de connaître ? Bon, non, vous n'avez pas envie. Est-ce que vous avez soif de connaître les semences ? Amen. Alors, je vais vous donner ma première semence. Et deux. Ah, les deux, ok. Je commence par la première. Je commence par un. Alléluia. Première semence. La joie vient quand tu crois que Dieu est en mouvement pour toi. Vous avez vu, j'ai commencé le titre de mon message, c'est « Mets-toi en mouvement avec Jésus ». Mais pourquoi je vous dis de mettre en mouvement avec Jésus ? Parce que Jésus lui-même est en mouvement. Et en fait, il faut commencer par le croire. Si vous ne croyez pas que Jésus est en mouvement, déjà, vous freinez, vous arrêtez. Il y a une joie que vous ne pouvez pas cultiver en vous. Alléluia. Vous savez, quand j'ai rencontré ma femme, est-ce que je vous permettais que je parle un peu de moi ? Je ne viens pas souvent. Ah, merci chérie. Donc, vous allez voir ma magnifique femme, mon magnifique épouse. Ça... Amen. Ah, ah. Alléluia. Vous savez, mon épouse, je l'ai rencontrée dans un camp de vacances à Valence. Et quand je l'ai vue, elle a flashé sur moi. Cash. J'étais venu avec des sandales. C'est la vérité. J'avais un grand chapeau de paille, ma guitare dans le dos, red dingue. Bon, j'exagère peut-être un peu. Non, moi, j'ai trouvé mignonne. Elle l'a flashé, moi, je l'ai trouvé mignonne. Le problème, c'est que j'ai appris qu'elle vivait en région parisienne. Et moi, je suis Marseillais. Né à Marseille. Élevé dans le berceau marseillais. J'ai grandi dans le vélodrome. Et si Samuel nous écoute, je te pardonne pour dimanche dernier. Mais ça pour dire qu'en fait, on a développé des sentiments à force de connecter. Et ces sentiments-là, à un moment donné, nous ont poussé à un mouvement. Il fallait que l'un de nous bouge. Et comme je l'aimais, j'ai bougé. J'ai quitté, je suis venu la rejoindre et on s'est installé à Montargis. Ce que je veux vous dire maintenant, c'est que tu peux croire que Dieu est en mouvement parce que la Bible dit en Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus. Jésus s'est mis en mouvement parce que Dieu t'aime. Et si tu crois, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, Jésus, afin que quiconque croit, vous voyez, mouvement, croit, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Jésus est en mouvement depuis le commencement, parce qu'il t'aime. Alors, j'aimerais aller plus loin. Avant ta naissance, Dieu était déjà en mouvement pour toi. Et j'ai commencé avec ce texte, j'aimerais vous lire et vous parler d'un personnage dans le livre de Juges, chapitre 13, verset 2, qui s'appelle Samson. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont ici, connaissent Samson. Si vous n'avez jamais entendu parler de Samson, je vais vous parler de lui. Mais je vais d'abord vous parler des circonstances de sa naissance. D'accord ? Samson, il était du peuple d'Israël et à cette époque-là, Israël était occupé par les Philistins. Avant que Samson naisse, il est écrit donc, il y avait un homme Tsoréa de la famille des Danites et qui s'appelait Manoa. Manoa, c'est le prénom de mon fils. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Voyez, Samson n'est pas apparu par hasard. Et je voudrais te dire, toi non plus, Dieu savait que tu viendrais au monde. Et j'aimerais appuyer encore cette pensée avec un témoignage. J'ai demandé à mon épouse de venir. Elle va vous raconter comment ça s'est passé pour la naissance de notre premier fils.
Alors avec Benjamin, nous on s'est mariés en 2016. Une année bénie, une année de grâce. Après être tombée amoureuse, hein, bien sûr, et le mariage. Et après notre mariage, je suis tombée enceinte de notre premier enfant, donc 3 mois après notre mariage. Dieu en a décidé ainsi. J'ai toujours voulu être maman. C'est vraiment quelque chose qui m'a appelée. Être maman, ça faisait partie de moi. Déjà toute petite, je jouais, j'avais toujours des poupons, j'avais toujours des poussettes. J'aimais ce rôle-là. Et dans mon cœur, j'ai toujours voulu être mère. Donc forcément, quand le test de grossesse est révélé positif, j'étais dans une joie, mais une joie intense. Vraiment une joie. Je me suis dit, waouh, Seigneur, merci pour la vie que tu me donnes. Mais cette joie-là, elle m'a été volée. Elle m'a été volée à cause de mes doutes. Je ne sais pas pourquoi, mais d'un coup, mes pensées venaient et c'était « Tu vas perdre cet enfant. Tu vas le perdre. » Et j'avais peur de le perdre. J'avais vraiment peur. Mais c'était vraiment... Ça m'obsédait. J'avais peur de perdre cet enfant. Alors, il n'y avait pas de raison de le perdre. Mais j'avais vraiment peur de le perdre. Et puis, quelques jours plus tard, je m'aperçois en fait que j'ai des saignements. Et là, je me dis, aïe. Et là, vraiment, la peur m'envahit. Vraiment, la peur. Et là, je me dis, mais voilà, j'ai eu peur. C'est ce qui va se passer. Je vais perdre le bébé. Donc, avec Benjamin, on va à l'hôpital. Ils nous font faire les examens. Et comme la grossesse était vraiment toute jeune, c'était un petit embryon, le gynécologue nous dit, avec son accent, je m'en souviens encore, ça résonne dans ma tête, « Oh, ben moi, on ne peut pas savoir, bébé mort ou vivant, on ne peut pas savoir. » Là, je me dis, il ne me rassure pas. Et là, on était le vendredi, et le samedi, le matin, je partais à Toulon pour l'anniversaire de ma chère tante, pasteur Céline. Lui faisait une surprise. Et donc moi, le lendemain matin, je devais partir pour célébrer cet anniversaire. Et je pars et je me dis, est-ce que je porte la vie ou pas ? Le gynéco me dit, toi, lundi, passez prise de sang. OK. Donc on part et j'étais vraiment très inquiète, très, très inquiète. Et puis le dimanche, la célébration, et c'était dans ce lieu. Et je me souviens très bien, j'étais ici, assise ici. Et là, je pleurais, je dis, Seigneur, pourquoi je ne comprends pas ? C'est quoi ces peurs ? Pourquoi est-ce que je vis ça ? Je ne comprends pas. Et je pleure. Et j'entends dans mon esprit, j'entends la voix du Saint-Esprit me dire, je ne te donne pas un enfant pour te faire plaisir. Je te donne un enfant pour agrandir mon royaume sur terre. Ton enfant est vivant. Et il est appelé à agrandir le royaume sur terre. Moi, papa, c'est prise de sang. La voix de l'Éternel a parlé. La voix de l'Éternel a parlé. À ce moment-là, Dieu m'a réintroduit dans une vraie joie qui ne m'a plus jamais quittée. Dans mon rôle de maman, j'ai une joie qui est là. Parce que quand je regarde mes enfants, je vois des disciples. Parce que quand je vois mes enfants, ils ont été confiés. Ils ne m'appartiennent pas. Ce qui m'appartient, c'est comment je vais les éduquer et comment est-ce que je vais les aider à remplir leur fonction pour Dieu. C'est ça la vraie joie. La vraie joie, c'est d'élever des enfants et de se dire qu'ils sont à l'Éternel. Ils sont à l'Éternel. Dieu nous réintroduit dans sa véritable joie.
Alléluia, vous entendez? Dieu vous connaît avant que vous naissiez. Dieu connaît vos enfants avant qu'ils naissent. Si vous avez entendu des mensonges, peut-être que c'est des mensonges qui viennent même de vous. Hein? Oh, je ne sers à rien. Je suis inutile. Mensonge. Amen. Déclare mensonge. Peut-être c'est quelqu'un qui t'a dit, parfois c'est même des parents qui peuvent vous dire, tu as un accident. Mensonge. Non, tu n'es pas là par hasard. Dieu t'a appelé tout comme il a appelé Samson. Il t'a destiné. Il t'a prédestiné. Tu as des dons, tu as des talents. Il a mis quelque chose en toi qui est nécessaire à ce monde. Tu es utile. Et si tu ne l'as pas été jusqu'ici, Dieu t'appelle à te réintroduire. Et la joie viendra. Je vais aller encore plus loin. J'ai parti. Je continue. Merci. J'avance. La joie de Dieu. Vous savez, j'ai perdu le titre. Non. La joie de Dieu. Même dans l'échec, pardon, Dieu continue d'agir pour toi. Même dans l'échec. Je vais rappeler un petit peu ce qui est arrivé à Samson juste après. Donc, Samson est né. Et effectivement, il avait une joie surnaturelle, une joie, une force surnaturelle. Il pouvait vaincre des adversaires incroyablement. Et il avait un secret, évidemment, c'est que sa force était dans ses cheveux, sa chevelure. Et tant que le rasoir ne passait pas sur sa chevelure, alors sa force était manifeste et personne ne pouvait le vaincre. Il est écrit dans Juges 16, 4. Après cela, là, c'est un mauvais après cela. Samson venait d'aller voir une prostituée du peuple des Philistins, c'est-à-dire le peuple adverse. Il aima une femme de la vallée de Sorek, également du peuple adverse. Elle se nommait Delila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 sicles d'argent. » Delila dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter ?» Vraisemblablement, Samson avait un besoin affectif. Et pasteur Romac nous a rappelé, c'est un besoin légitime. C'est légitime de vouloir être avec quelqu'un. Mais attention, quand on comble son besoin en se déconnectant de la vision de Dieu pour ta vie. Et Samson, c'est ce qu'il a fait. Il a voulu combler un besoin affectif. Il a voulu avoir une joie déconnectée de son appel. Cette joie est factice. Elle est éphémère. C'est un confort éphémère. Et pasteur Romaric nous a rappelé cette phrase. Ton confort d'aujourd'hui peut voler ta bénédiction de demain. Attention à vouloir avoir une joie factice. Et je vais aller plus loin. La joie factice peut étouffer la semence de joie que Dieu a placée en toi. Reste aligné. Je continue. Et regardez la conséquence. Ce n'est pas sur le diapo. Elle l'endormit sur ses genoux après qu'il lui ait révélé son secret. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de sa tête et Samson commença à être dompté. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Samson a tout perdu. Vous voyez, et quand je parle d'échec, dans son cas-là, il a échoué. Et peut-être c'est le cas de quelqu'un aujourd'hui, ici, ou qui nous écoute en ligne. Il n'y a pas d'accusation. Mais je veux juste te rappeler, peut-être que c'est dans ton service, dans ta relation avec Dieu, c'est un péché qui t'a fait échouer. Tu es passé à côté, comme Samson. Peut-être que ta vision, tu as encore tes yeux, mais ta vision de l'avenir est obscurcie, comme des yeux crevés. Peut-être que tu es dans une prison et tu tournes une meule. C'est-à-dire, en fait, tu es comme enfermé et tu as l'impression de tourner en rond. Ta vie n'a plus de sens, plus de goût, plus de but. J'aimerais te donner une parole d'espérance. Juste le verset suivant. Verset 22, chapitre 16. Cependant, en prison, en train de tourner la meule, cependant, les cheveux de sa tête recommencèrent à pousser. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Parce que Dieu continue d'agir. Que tu aies échoué, que tu ne vois pas l'avenir, que tu as l'impression que ta vie tourne en rond, que tes perspectives sont arrêtées. Dieu n'a pas arrêté de croire en toi. Dieu continue de restituer tes dons, te régénère, il ressuscite ton talent. Si tu crois, Dieu le fait. Il continue d'être en mouvement pour toi. Vous savez, je suis passé par là. J'ai vu une déception sentimentale avant de rencontrer Marie. C'est déjà dur. Mon père a fait un AVC. Et le médecin, son diagnostic, c'était « Maintenant, c'est irrémédiable. 80% de handicap. » C'était dur. Vous savez qu'est-ce qui m'a achevé? Quand j'allais voir mon père à l'hôpital, je lui disais, « Papa, à l'époque, je passais mon concours pour devenir professeur. » Il dit, « Papa, je vais avoir mon concours, t'inquiète pas. Pour toi. » Dans ma tête, je me disais, « Avec tout ce qui m'arrive, Dieu va me donner le concours. » C'est logique. Je ne peux pas souffrir comme ça. Quand les résultats sont tombés, refusés, 0,1 point. J'ai dit, je peux parler de dépression, état dépressif. Je n'arrivais pas à me lever de mon lit. Mais dans sa grâce, j'ai lu une parole. Vous savez, des fois on ouvre la Bible comme ça, et je n'avais pas la force de chercher. Hein. J'ai ouvert Genèse 1:1. Genèse 1:1. Je suis pas allé loin. Mais je peux vous dire que même une parole de Dieu, même pas trop cherchée, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. C'était mon état. Et l'Esprit de Dieu se mouvait, était en mouvement au-dessus des eaux. Peut-être que tu as l'impression que ta vie, elle est stérile, qu'il ne se passe rien. Que Dieu n'est pas en train d'agir. Tu ne vois pas, je ne voyais rien. Mais j'ai compris et j'ai cru que l'Esprit de Dieu était en mouvement. Dieu allait faire quelque chose. La lumière allait jaillir. Ce n'était pas possible autrement. Crois ce message. La lumière va jaillir. Dieu est en mouvement, même dans la situation où tu ne vois rien. Crois maintenant. La joie ne vient pas des circonstances, mais de ta foi dans ce que Dieu fait en coulisses. Tu perds ta joie quand tu perds de vue que Dieu est en mouvement. Tant que Dieu bouge pour toi, la tristesse n'aura pas le dernier mot. Il faut croire. Samson a tout perdu, mais pas l'amour de Dieu. Et toi non plus. L'amour de Dieu stable, même quand tu ne vois rien. Et vous savez, Jacques nous dira, Jacques 2,18, « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai ma foi avec les œuvres. » Pourquoi ? Parce que la foi Donc quand je crois, je vais commencer à agir. Et j'arrive sur ma deuxième semence. Ose. Ose te mettre ou te remettre en mouvement. C'est intéressant de voir que Samson, ses cheveux commencèrent à repousser, mais il était toujours en prison. Il avait de la force, normalement. Non, il tournait la meule. En fait, il faut comprendre que la joie ne va pas te rattraper si tu restes immobile. Tu dois activer ta foi. Tu dois l'activer en te mettant en mouvement. Il faut agir. Comment agir ? Juge 16, 28. Alors Samson invoqua l'Éternel. Invoqua l'Éternel. Et dit, Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Il y a une prière du cœur et des lèvres qui va te reconnecter à ta destinée. Ta foi est activée par une prière. Pourquoi je dis du cœur et des lèvres ? Le cœur, c'est pas là, spirituel. Le cœur spirituel, il est là. Samson change de mentalité. Samson commence à invoquer l'Éternel. Et Samson, quand il invoque l'Éternel, il ne dit pas « Rends-moi l'amour de Delila ou bien donne-moi une copine. » Besoin affectif. Il ne dit pas « Donne-moi de la force pour que je puisse m'enfuir et rentrer chez moi. » Non. Il invoque l'Éternel et il demande de lui donner de la force pour vaincre les Philistins. Mais pourquoi Samson était appelé ? C'était quoi son appel au départ ? Dieu disait à ses parents, déjà quand il parlait, il commencera à délivrer le peuple des Philistins. En fait, Samson, il a invoqué Dieu dans la direction de la volonté de Dieu. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu pour ta vie, j'aimerais te dire ici, il y a des pasteurs, des leaders, des ministères qui font des confessions. C'est des textes qui connectent la pensée de Dieu, qui donne une direction à l'Église. Si tu es dans cette Église, commence à proclamer. Commence à parler. Commence à parler et à dire ce que Dieu dit. C'est pourquoi c'est important de parler le langage de Dieu. Dis ce que Dieu dit. Pasteur Marc nous l'a dit. Et c'est important de connaître son identité pour dire ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit de toi, tu es précieux. Tu es puissant. Tu es capable. Tu es un influenceur. Tu peux changer une destinée. Commence à prier, à dire ce que Dieu dit de toi. Et après avoir prié, il faut se mettre en action. Samson ne s'est pas contenté de prier, il a bougé. Samson a embrassé les deux colonnes du milieu, Juge 16, 28, sur lesquelles reposait la maison. Littéralement, il s'est mis comme ça entre les deux et il a commencé à pousser. Il s'appuya contre elle, l'une à sa droite, l'autre à sa gauche. Il y a un mouvement qui vient après avoir prié. Peut-être, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu te demande de faire. Connecter avec peut-être quelqu'un qui t'a amené ou bien qui t'a fait écouter ce message une première fois. Te rapprocher de cette personne. Te rapprocher de ton leader. Peut-être que c'est une autre dimension de service. Pasteur Romaric nous rappelait. Si quelqu'un, dans Jean 12, 26, si quelqu'un me sert, c'est Jésus qui parle, le Père l'honorera. Vous savez que l'honneur du Père vous donne la joie ? Bon, mon fils, des fois, il vient me voir et me dit « Papa, papa, papa !» Aujourd'hui, j'ai aidé Manoah. Il n'arrivait pas à faire quelque chose, c'est moi qui l'ai aidé. Il me dit ça tout joyeux. Qu'est-ce qu'il attend ? Pourquoi il me le dit ? Mais parce qu'il attend que je le dise. C'est bien. Et je lui dis, c'est bien, mon fils, c'est bien. Il a la joie. Amen. Et Manoah, pareil. Il reçoit quelque chose et j'ai partagé avec Jarod, papa. C'est bien, mon fils. Et je ne suis pas parfait, moi. Alors, à plus forte raison, quand vous bénissez votre frère, votre sœur, le Père va vous dire, c'est bien, mon fils. Et la joie naît de cela. Sers, agis, mets-toi en mouvement. Notez, cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données. La joie, ça fait partie de ces choses qui vous seront données. Alléluia. Reçois. Et je termine avec ce dernier petit point, toujours dans oser. Ose te mettre en mouvement parce que Jésus t'appelle à le suivre et à te mettre en mouvement. Vous savez, Jésus va dire, suis-moi, 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 suis-moi. 10 fois dans la Bible, Jésus répète, suis-moi. Et je reprends pasteur Raphaël qui nous avait apporté ce message sur Pierre. Et parfois, oh, je prends 5 minutes. J'arrive à la fin. À un moment donné, les disciples sont dans la barque. Jésus les a fait partir. Et les flots commencent à secouer la barque. Ça secoue. Et les disciples ont peur. Jésus vient vers eux en marchant sur l'eau. Ils sont effrayés. Ils disent, un fantôme! Jésus dit, non, c'est moi. Ne vous inquiétez pas. Et là, les disciples ils sont dans la tempête, dans la barque. Et il y a Pierre qui ose dire, si c'est toi, permets que je vienne. Qu'est-ce que Jésus l'a dit? Non, la tempête, c'est trop fort. C'est ça qu'il a dit, Jésus? Jésus l'a dit, viens. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire? Pierre sort et met le pied sur l'eau et commence à marcher sur l'eau. Il marche sur l'eau. Mais je vous dis ça parce que quand j'ai réfléchi à ce message, parfois, il y a des gens, ils sont dans un inconfort. Je vous ai dit, la tristesse, c'est un lieu. La barque est tangue. Le vent souffle. Les vagues frappent. Mais dans leur inconfort, il y a un confort. Le confort d'être dans une barque. On ne veut pas sortir. Mais moi, je vous appelle. Sors. Pierre est sorti de la barque et il a commencé à marcher sur l'eau. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous sortez peut-être de ce lieu de tristesse, de ce lieu de confort, de ce lieu d'angoisse, vous allez marcher sur l'eau parce que Jésus vous appelle à marcher sur l'eau. Il va se produire des choses extraordinaires. Il va se produire une joie extraordinaire. Vous connaissez la suite de l'histoire? Qu'est-ce qui est arrivé à Pierre? Il a douté et il a commencé à couler. Je vais vous donner juste un encouragement, même à travers cette situation. Il y a des gens qui disent, mais moi je ne vois pas Jésus, moi je ne touche pas Jésus. Il n'y a pas beaucoup d'exemples dans la Bible où on voit Jésus toucher quelqu'un. Mais quand Pierre a douté, Jésus l'a attrapé par la main. Si vous faites ce pas de bouger, peut-être qu'il y a un risque. Vous dites, ça me sort de mon confort, ça me sort de ma zone de sécurité, ça me sort de tout ce que j'ai pensé, de ma mentalité depuis des années. Sachez que même si vous doutez par la suite, la main de Jésus sera tendue et vous allez le sentir comme jamais, comme jamais. La joie ne vient pas à ceux qui attendent, mais à ceux qui avancent. Alors, je vais faire un appel ce matin. Ne venez pas vers moi, même si vous allez venir devant. J'aimerais que vous visualisiez. Peut-être que vous êtes dans un bateau. Comme Pierre, comme les disciples. Visualisez maintenant que Jésus vous appelle sur le devant. Et que vous allez commencer à marcher sur l'eau. Si vous voulez rentrer dans cette joie excellente, si vous acceptez de vous mettre en mouvement, si vous voulez vivre autre chose, je vous appelle maintenant à venir sur le devant. N'hésitez pas. Venez sur le devant. La joie est pour ceux qui avancent. L'obéissance te reconnecte à ta destinée et libère la joie. Samson a prié, puis il a agi. La joie suit ceux qui osent avancer. Alors peut-être pour ceux qui m'écoutent peut-être pour là ou les premières fois, à ta place, même chez toi, mets-toi debout. Mets-toi debout, parce que Jésus veut te donner sa joie. Les semences de la joie veulent être implantées à toi, implantées en toi. Et quand tu vas les cultiver, la joie va naître. Il va se produire quelque chose. On va commencer par un chant. J'aimerais que vraiment vous fermez les yeux. C'est vers Jésus que vous venez. On va commencer par un chant. Après, je vous inviterai à faire une prière avec moi qui va vous reconnecter à la joie.